Il est 20h30 à Paris, une heure de plus à Khartoum. Merci d'écouter Radio France Internationale.
Afrique Soir sur RFI, Zéphirin Kouadio.
Bonsoir à toutes et à tous. L'armée soudanaise affirme avoir repris le contrôle de Sinjar, capitale régionale de l'État de Sennar. Un axe stratégique reliant les zones contrôlées par l'armée dans l'est et le centre du pays. L'Union européenne rappelle son ambassadeur au Niger pour consultation, raison invoquée par l'UE, la remise en cause des modalités de son aide humanitaire par les autorités de Niamey. Et puis au Mali, fermeture de Djoliba TV News, décision de la Haute Autorité de la Communication. Cette sanction intervient après une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre la chaîne. L'armée soudanaise affirme donc avoir repris le contrôle d'une ville clé située au sud de Khartoum, Sinjar, une capitale régionale qui était depuis 5 mois aux mains des paramilitaires du général Hemeti. Le récit de Florence Maurice.
Sinjar est revenu dans les bras de la nation. C'est en ces termes que le ministre de l'Information du gouvernement soudanais a fait part de la nouvelle. Sinjar a été libéré, se félicite également l'armée régulière qui a diffusé aujourd'hui sur les réseaux sociaux des images filmées selon elle à l'intérieur de la principale base de la ville. Sinjar, capitale de l'État de Sennar, est une ville importante dans le conflit en cours car elle est située sur une route stratégique qui permet, lorsqu'elle n'est pas occupée, de relier entre elles les zones que contrôle l'armée dans l'est et dans le centre du Soudan. Le général Bourhan s'est d'ailleurs rendu aujourd'hui dans la ville de Sennar à 60 km plus au nord pour célébrer cette libération. Les deux villes, Sennar et Sinjar, étaient tombées aux mains des paramilitaires en juin après une offensive éclair. Cela avait entraîné la fuite de plus de 700 000 Soudanais selon l'ONU. Quant à ceux restés sur place, ils auraient subi ces derniers mois des exactions de la part des paramilitaires selon des témoignages recueillis par plusieurs ONG.
Un récit signé Florence Maury et puis des tensions entre l'Union européenne et le Niger. Niamey reproche à Bruxelles d'avoir alloué des fonds à plusieurs ONG opérant dans le pays sans autorisation préalable des autorités de transition. Une remise en cause des modalités de l'aide humanitaire selon l'Union européenne qui annonce ce samedi le rappel de son ambassadeur pour consultation. Les précisions de Victor Moria.
Tout est parti d'un communiqué du ministère nigérien des Affaires étrangères, lu hier soir dans le journal de la télévision nationale, la RTN. Le ministère y explique que l'Union européenne aurait débloqué 1 300 000 euros pour les victimes des inondations de la dernière saison des pluies. Problème, selon Niamey, non seulement cette aide n'avait pas été demandée par les autorités de transition, mais en plus, les fonds auraient été directement alloués par l'ambassadeur européen à plusieurs ONG internationales opérant dans le pays. Le ministère cite par exemple le Comité international de la Croix-Rouge ou encore le Danish Refugee Council. Les autorités dénoncent un mépris des principes de transparence et de bonne collaboration et annoncent avoir commandité un audit pour connaître l'usage et la destination réelle des financements. Dans un communiqué publié ce matin, l'Union européenne se dit en profond désaccord avec, je cite, les allégations et les justifications avancées par les autorités de transition. Elle assure que l'aide humanitaire est non seulement essentielle, mais apportée de manière neutre, impartiale et indépendante. L'Union européenne rappelle donc son ambassadeur à Niamey pour consultation, dénonçant, je cite encore, l'instrumentalisation de l'aide humanitaire à des fins politiques.
Précision signée Victor Moria. Et puis les pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger veulent harmoniser leurs documents de voyage et d'identité pour une libre circulation de leurs ressortissants et leurs biens dans le nouvel espace qu'ils ont créé. Annonce faite via un communiqué publié à l'issue d'une réunion des ministres chargés de la sécurité de ces trois pays, à Bamako. Le Bénin assouplit, lui, les restrictions de circulation de marchandises et de personnes avec le Niger. Les autorités béninoises souhaitent que ces nouvelles directives s'accompagnent d'un renforcement de contrôle pour détecter et intercepter tout transport d'armes, de munitions ou de matériel pouvant être utilisés par les groupes armés terroristes. Fin de citation. Depuis plusieurs semaines, les signes d'apaisement entre le Bénin et le Niger se multiplient avec des rencontres entre les deux voisins et l'agrément des autorités béninoises en octobre dernier au diplomate canadien Chaïbou, nommé nouvel ambassadeur du Niger à Cotonou. Au Sénégal, l'homme politique Moustapha Diarraté, leader du mouvement Ardomi Sénégal, mouvement pour la République et la démocratie et ancien président du groupe parlementaire de Beno Bokyakar, placé en garde à vue vendredi soir pour insulte par le biais d'un système informatique envers un groupe se caractérisant par son origine nationale. Il a été entendu par les enquêteurs de la division de la cybercriminalité pour des propos tenus dans une émission de la chaîne 7 TV où il s'en est pris notamment au Premier ministre, Ousmane Sonko et a qualifié ses électeurs d'électeurs dupés et les Sénégalais de peuple maudit après les élections de dimanche dernier. Ces derniers mois, plusieurs personnalités ont été entendues par la police et placées en garde à vue pour avoir critiqué le pouvoir.
Bamako, 98.5 FM.
Au Mali, la chaîne de télévision privée Djoliba TV est suspendue par la Haute Autorité de la Communication à Bamako. Un responsable de la chaîne explique que la HAC lui a retiré sa licence. La mesure sera effective le 26 novembre. Une sanction qui intervient après une plainte du Conseil supérieur de la communication du Burkina Faso contre Djoliba TV. Pour rappel, lors d'un débat télévisé, Issa Kao Ndjim, une figure politique malienne, avait tenu, je cite, « des propos jugés gravissimes par Ouagadougou contre la junte au pouvoir ». Depuis, Issa Kao Ndjim a été placé sous mandat de dépôt à Bamako et Djoliba TV est donc suspendu. Une décision que Noël Yao, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine, qualifie de scandaleuse.
C'est avec tristesse, consternation et une grande indignation que l'UJPLA a appris cette nouvelle qui, en réalité, n'honore nullement ni le Mali, ni le processus actuel de transition dans ces pays. La liberté et la démocratie dont se targue le maître du Mali ne vont pas de pair avec cette façon d'attenter à la liberté de la presse et de compromettre le droit à l'information des citoyens maliens. L'UJPLA demande donc à la HAC, Haute Autorité de la Communication du Mali, et aux autorités maliennes de revenir sur cette décision qui n'est pas bonne en matière de démocratie, en matière de droit à l'information et en matière tout court des droits fondamentaux de l'homme.
La réaction de Noël Yao, président de l'Union des journalistes de la presse libre africaine. Et puis un mot de la COP29 de Bakou qui s'éternise. La plénière finale a été suspendue. En attendant, les négociations se poursuivent plus de 24 heures après la fin théorique de cette conférence de l'ONU et une journée mouvementée. Les délégués des petits États insulaires et les représentants des 45 pays les plus pauvres de la planète, principalement des États africains, ont claqué la porte d'une réunion avec la présidence de la COP29. La raison de leur colère, le montant de l'engagement des pays occidentaux en termes de finances climatiques dans un texte qui n'a pas été publié officiellement. Cet engagement serait de 300 milliards de dollars par an. D'ici 2035, les pays les plus vulnérables demandent au moins le double. Mais pour l'instant, personne n'a renoncé à un accord. Les consultations pourraient se poursuivre une partie de la nuit. Plusieurs milliers de personnes étroitement encadrées par la police ont marché pacifiquement ce samedi à Luanda, capitale de l'Angola. Manifestation contre la faim et le MPLA, le parti au pouvoir, et le président João Lourenço. Manifestation organisée par l'UNITA, parti d'opposition dont la popularité n'a cessé de grimper ces dernières années. Il s'agit du premier grand rassemblement depuis les élections controversées de 2022. Un mois présent de la deuxième journée de la fenêtre de qualification pour le prochain Afro-Basket masculin à Dakar. Dans la poule A, nouvelle défaite du Mali. Les Aigles ont été dominés ce samedi après-midi par le Soudan du Sud sur le score de 85 à 60. Le capitaine de la sélection malienne, Mahamadou Kanté, concède que son équipe a fait beaucoup d'erreurs.
Nous, on est passé complètement à côté de notre match. On n'est pas du tout bon en défense ni en attaque. C'est du bourbier vraiment. Donc on va continuer à travailler là-dessus. C'est pas, comme je l'ai dit, c'est pas encore fini. Après le match de demain, on a encore du temps en fait pour travailler et ensuite revenir plus fort. Comme je l'ai dit, c'est sur beaucoup de choses en fait. Donc des choses qu'on doit régler à l'interne. Donc que je ne suis pas obligé forcément d'en parler ici. Voilà, parce que là, deux défaites, on va laisser ça derrière nous. Bah, c'est pas encore fini. Bah, ça c'est la phase aller. Donc, on va essayer de gagner demain et ensuite préparer la phase de retour. C'est sûr que c'est contre le Maroc. On va essayer de prendre le match de demain et ensuite on verra la suite quoi. C'est un tournoi, c'est pas fini.
Voilà le capitaine de la sélection malienne qui affrontera donc demain le Maroc. Des Marocains également battus pour la deuxième fois cet après-midi par la République démocratique du Congo, 74-65. Journée historique pour le football féminin congolais avec la victoire 1-0 du tout-puissant Mazembe en finale de Ligue des Champions de la CAF. Au stade El Abdi d'El Jadida, les joueuses de Lubumbashi ont surpris les Marocaines de la SFAR de Rabat avec un pénalty de Marlène Cazage à la 10e minute avant de résister face à leurs adversaires, pourtant devant leur public. C'est le premier sacre du TP Mazembe dans cette compétition lancée en 2021. Il est 20h40 ici à Paris.